Donc je vous invite à chercher ce texte en Exode, Exode chapitre 1, et nous allons commencer une série sur la vie de Moïse. Exode chapitre 1, verset 8, et nous lisons jusqu'au chapitre 2, verset 10. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habile à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. » C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qui leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qu'il avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi à vous laisser vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant qui dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand elle eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Les grands héros de l'histoire humaine sont ceux qui ont conduit leur peuple vers la liberté. Martin Luther King, Simone Bolivar, Gandhi, Abraham Lincoln, Churchill, tous ces grands héros. On le sait, sortir d'un esclavage vers une terre promise, qu'elle soit géographique ou autre, eh bien, c'est l'histoire la plus basique, la plus recherchée de l'existence humaine. Et l'Exode, ce livre d'Exode, eh bien, c'est le cas classique, c'est le prototype de cette sortie d'un esclavage. Vous savez, la sortie d'Égypte, c'est l'événement clé de tout l'Ancien Testament. Et bien sûr, le rôle qu'a joué Moïse fait de lui un personnage incontournable, même incomparable. Il y a un verset même qui le dit, « Nul ne peut lui être comparé pour le rôle qu'il avait, pour la relation qu'il avait avec Dieu. » Quand on pense à Moïse, il était prince, il était berger, il était libérateur, il était juge, il était prophète, il était général, il était législateur, il était architecte, il était toutes ces choses. Donc on l'a appelé le prince d'Égypte. Le bilan final que la Bible utilise pour le qualifier, c'est tout simplement Moïse, serviteur de l'Éternel. Il a été, et c'est une vie que nous voulons regarder. Ce matin, nous allons regarder le récit de sa naissance. Et nous voyons ici des circonstances particulières qui vont signaler que ce bébé, il va avoir un grand rôle à jouer. Alors, vous connaissez l'histoire de l'arche de Noé. Ici, c'est l'histoire de l'arche de Moïse. L'arche de Moïse, c'est ce que j'ai mis, parce que le mot hébreu pour caisse, quand elle dit le verset 3, elle prit une caisse de jonc. C'est le mot hébreu, le même mot hébreu qu'on trouve dans le récit de l'arche de Noé, et c'est les seuls endroits dans l'Ancien Testament qu'on trouve ce mot pour décrire soit l'arche de Noé, soit cette caisse, cette arche de Moïse. Et c'est pas mal parce que pour un dimanche de baptême, ce récit tombe bien. Vous savez que l'eau joue un rôle important dans le livre d'Exode. Le Nil, ces grandes eaux d'Égypte, le Nil, ce grand fleuve, et puis la mer Rouge aussi. Et donc, nous allons nous pencher sur cette histoire. Nous allons voir tout d'abord la grande puissance, ensuite la petite résistance, et enfin la grande délivrance. Voilà, la grande puissance, la petite résistance et la grande délivrance. Tout d'abord, on nous décrit dans le chapitre 1 la grande puissance de l'Égypte. On nous dresse le tableau ici de la tyrannie pure et dure. Ce nouveau roi qui s'élève sur l'Égypte, au lieu de choisir la voie de la bénédiction, il choisit la voie de la peur. Au lieu de voir les Hébreux comme une bénédiction, telle que Dieu avait promis, il choisit de les voir comme une menace. C'est-à-dire, ils ont peur qu'ils deviennent trop puissants, plus puissants qu'eux. Ils ont peur qu'ils risquent de se joindre à leurs ennemis, dans le verset 8 et 9. Est-ce que c'est une peur justifiée? Je ne suis pas sûr. Rien ne dit que les Hébreux se seraient joints à leurs ennemis. Les Hébreux avaient tout intérêt. Ils étaient bien en Égypte. Ils avaient tout intérêt de défendre leur pays, leurs concitoyens. À mon avis, ils auraient été plutôt une bénédiction pour les Égyptiens, une force supplémentaire. Mais ces Égyptiens, ce pharaon, ont choisi la voie de la peur. Et souvent, la puissance du mal, la grande puissance du mal commence ainsi, profite d'une peur en nous. Peur d'être rejeté, peur d'être menacé, peur d'être impuissant, peur d'être oublié. Et donc nous propose cette voie qui nous mène vers le mal, vers le péché. Alors, quelle était la stratégie de la grande puissance de Pharaon? En verset 10, il dit « Montrons-nous habiles ». C'est-à-dire « Soyons malins, montrons-nous habiles pour... avoir une emprise, une puissance sur ces Hébreux. » Et ils vont prendre quatre mesures habiles pour maîtriser, pour devenir ce maître cruel et puissant qu'on trouve ici. Donc quatre mesures, tout d'abord les rendre esclaves. Ça c'est verset 11, on établit celui des chefs de corvée. Donc il décrète, maintenant vous n'êtes plus nos voisins, vous n'êtes plus nos concitoyens, vous n'êtes plus nos amis, vous êtes nos esclaves, vous devez faire ce qu'on vous dit de faire. Et on vous l'impose. Ça, c'était la première étape. Mais verset 12, plus on l'accablait, plus il multipliait. Donc pour l'instant, ça marche moyen. Alors, deuxième étape, ils durcissent le ton. Verset 13, alors les Égyptiens réduisirent les enfants à une dure servitude. Et là, on commence à trouver les mots cruauté et dureté et aversion. C'est comme ça que ce maître puissant va augmenter sa puissance. Par une dureté, une cruauté. Et puis, l'étape suivante, c'est, à partir du verset 15, la destruction subtile, la mort subtile. On va demander aux sages-femmes de pratiquer une forme primitive d'avortement sur les garçons, les mâles. Mais encore, on reste sur une stratégie subtile, c'est-à-dire les sages-femmes sont demandées de gérer les situations. Je ne sais pas comment elles faisaient, mais l'idée c'est que vous étranglez l'enfant quand elle sort, et puis vous le dites aux parents que c'était un enfant mort-né, voilà. Donc, on est dans la subtilité. Bien sûr, les sages-femmes ne débarquaient pas à la porte en disant « on est là pour tuer votre enfant ». C'était plus subtil que ça. Ils ont peut-être commencé une comité, la comité pour la protection des frontières et de la sécurité égyptienne, la CPFSE. Donc la CPFSE débarque à votre porte. On aimerait vous recenser. On est la comité pour la protection des frontières et de la sécurité égyptienne. D'accord. Et toutes les sages-femmes doivent se syndicaliser à la CPFSE. C'est comme ça que ça marche. N'oublions pas que le malin, il est malin. Ils sont habiles. La stratégie de base ici, c'est démasculer la nouvelle génération, c'est-à-dire priver de sa force masculine. Il n'y a plus d'homme véritable pour se lever. Et on reconnaît encore une des stratégies du malin. Et puis on passe à l'étape suivante, parce que encore là, ça marche moyen. Verset 22. Là, c'est plus la destruction subtile, c'est la destruction ouverte. Verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple : vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Alors, c'est dramatique, c'est fort, mais tout le peuple, il faut voir l'étendue de cet ordre, tout le peuple est demandé de prendre part à cette génocide. Cette semaine, à côté de chez nous, il y avait ce cas dramatique d'un enfant noyé dans le lac d'Aucanville. Mais imaginons toute une société qui pratique une telle chose. Et là, on voit la puissance du mal, ce portrait du mal qui nous est dressé dans le premier chapitre. Et c'est ça qui est terrible. Le Nil, c'était la gloire de l'Égypte, c'était symbole de fertilité. C'était un instrument de vie, c'est ce qui faisait vivre ce pays. Et ils en font un instrument de mort, c'est-à-dire qu'ils vont jeter les enfants dans le Nil, dans le fleuve. Cette bénédiction de Dieu, ce Nil, est devenu un instrument de mort. Et au lieu de nourrir le peuple, ils ont noyé le peuple. C'est ça la puissance du mal. Et tout ça peut nous interpeller aussi parce que le péché, il fonctionne de la même manière. Montrons-nous habiles, c'est comme ça que le péché se prend avec nous. Et avec ces mêmes étapes, d'abord il y a un subtil esclavage, il y a un esclavage, et puis on durcit le temps, il y a un esclavage ouvert et cruel. Et puis il y a une destruction subtile, et puis il y a une destruction ouverte. Avouons que nos péchés, nos maîtres, nos idoles sont des maîtres cruels et puissants qui exigent, qui exploitent, qui ne sont jamais satisfaits. C'est ce que vous avez entendu dans le témoignage de Michel ce matin, à quel point le péché peut avoir une emprise sur nous, peser sur nous. Et tel est le cas des enfants d'Israël, leur situation est sans espoir. Telle est grande la puissance du Pharaon. Vous savez, de temps en temps dans l'histoire, il y a une révolte des esclaves. Les esclaves essaient de retrouver leur liberté, mais quand vous regardez l'histoire, c'est très rare et ça marche quasiment jamais. Les esclaves se révoltent. C'est leur état, ils sont surveillés en permanence, il y a le fouet qui est toujours là. Ils ne peuvent pas dire entre eux, ils ne peuvent pas dire, bon, à partir de demain, nous allons décider d'être libres. À partir de demain, nous signons une pétition et c'est fini, Pharaon et sa comité et tout ça. Nous allons dire à Pharaon que ça suffit maintenant qu'il nous laisse tranquille. Nous allons croire en nous-mêmes et ça va bien se passer. Non, la puissance est telle que c'est impossible, c'est impensable. Ils sont réduits à l'impuissance, il n'y a pas d'espoir pour ce peuple. Telle est la grande puissance de Pharaon. Mais après, Dieu introduit de l'espoir, et on fait connaissance avec la résistance, une petite résistance qui résiste. nous trouvons une petite bande de personnes qui n'ont pas eu peur de Pharaon, qui n'ont pas choisi la voie de la peur, mais ils ont choisi la voie de la crainte de Dieu. Et quand on a la crainte de Dieu, c'est lui qui rétablit les bonnes priorités et les bonnes réflexions. Et cette crainte de Dieu les protège du mal. Ils ne vont pas participer dans ce génocide, dans ces avortements. Ils vont agir autrement. Et donc les héros de la résistance ici, vous les avez vus, les héros de la résistance, eh bien, il s'agit de deux sages-femmes, une maman et sa fille. C'est pas mal, comme une bande des héros de la résistance. Il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, qui parle des héros de la foi, et qui dit que par la foi, ils vainquirent des royaumes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes. Et c'est ce qui va se passer ici. Trois femmes humbles, discrètes, une ado, un petit bébé, ils vont renverser le puissant royaume d'Égypte. Ce royaume qui a construit les pyramides et tout ça, eh bien, deux sages-femmes, une maman, sa fille, un petit bébé, vont renverser ce puissant royaume d'Égypte. Regardons tout d'abord ces deux sages-femmes. Oui, ils résistent à l'ordre du Pharaon, parce qu'ils craignent Dieu. Ils font point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Ce qui est très intéressant, beaucoup de commentaires le remarquent, c'est que dans tout le récit d'Exode, ce pharaon n'est jamais nommé. On ne connaît pas le nom de ce pharaon, on ne connaît pas exactement quel pharaon. On a quelques indices archéologiques, mais on ne sait pas trop. On ne connaît pas le nom du pharaon, ce grand pharaon, ce pharaon important, on ne connaît même pas son nom. Mais on nous donne les noms, les prénoms de ces deux sages-femmes, Shifra et Pua. Certes, si vous essayez de choisir un prénom pour votre enfant qui va naître cette année, vous n'êtes peut-être pas obligé de prendre Shifra ou Pua. Mais en tout cas, dans la Bible, c'est une manière d'attirer vraiment l'attention et d'honorer quelqu'un, citer son prénom. C'est un peu comme ça aussi dans le Nouveau Testament. Vous savez, Jésus donne souvent des paraboles, des histoires. Dans toutes ces paraboles, ces histoires, il n'y a pas des prénoms. Il dit un homme est parti pour semer, ou un homme avait deux fils, tout ça. Mais dans une de ces histoires, il raconte cette histoire entre l'homme riche, un homme riche, et puis Lazare. C'est le seul prénom qu'on a dans une histoire de Jésus, ce Lazare, qui était pauvre, qui était misérable. Normalement, c'était l'homme riche qui était important, mais aujourd'hui, on ne pense pas à l'homme riche. Aux yeux de Dieu, il est personne. Et c'est aux yeux de Dieu, Lazare, et c'était lui l'important. Et c'est pareil ici. On ne connaît même pas le nom du pharaon, mais ces deux sages-femmes, c'est elles les héros pour Dieu. Et Dieu les bénit pour leurs actions. Dieu fait prospérer leur maison parce qu'ils n'ont pas obéi au pharaon. Ils ont résisté. Et puis aussi la maman de Moïse. La maman de Moïse, je peux vous donner son prénom parce qu'on le sait d'ailleurs, Jochébède. C'est un autre héros de la résistance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a eu un enfant. D'ailleurs, on fait cette série d'éthiques les mardis soirs aux études bibliques et j'ai fait l'étude sur la contraception. Et dans mes recherches, j'ai vu que l'Égypte antique, ils étaient très au point sur la contraception. Alors, ce n'était pas un problème. Mais elle a eu un enfant. Par la foi, il a eu un enfant. Par la foi, elle ne s'est pas inscrite au CPFSE. Et puis le verset dit que quand l'enfant est né, elle vit qu'il était beau. C'est une petite phrase, simple phrase. Et toute maman, j'imagine, regarde son enfant et dit, ouais, il est beau. Mais c'est très fort comme phrase finalement, parce que beau, c'est aussi bon. C'est le même mot, beau ou bon. Et c'est exactement la même phrase quand Dieu a créé dans le récit de Genèse, chapitre 1, et Dieu vit que cela était bon. Exactement la même phrase, elle vit que cela était bon, beau. Et c'est précieux pour elle de regarder cette garçon mâle que la société entière dit « Ah, malheur, garçon mâle !» Elle voit ce garçon, ce bébé, et dit « Ça, c'est bon, ça, c'est beau. » Une société qui ne peut plus regarder un enfant, un bébé, et dire « C'est beau, c'est bon, ça, c'est une société en danger. » Et je crains pour la nôtre. Une société qui ne peut plus regarder un enfant, un bébé, et dire « C'est beau, c'est bon, c'est la création de Dieu. » est en danger. Donc, elle a eu un enfant. Par la foi, elle a vu que cet enfant était beau, était bon, était un cadeau de Dieu. Et puis, elle a caché pendant 3 mois. On a eu beaucoup de naissances dans l'église cette année. Tous les jeunes parents se partagent les nouvelles. Alors, vous dormez bien et tous les parents se plaignent de ce que la nuit n'était pas top et il a pleuré. Imaginons cette femme, chaque pleur la nuit, c'est tous les voisins qui pouvaient l'entendre et qui sont mandatés par l'ordre du roi de le jeter dans le fleuve. Ça c'est la foi, c'est une vie de foi, une vie difficile pour cette maman pendant 3 mois. Et à la fin de 3 mois, elle dit que ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse, elle prit une arche. Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Eh bien, la maman de Moïse a construit une arche, c'est le même mot, une arche pour sauver sa famille, pour sauver la sienne, sauver son bébé. Et on voit que c'est pas un geste de désespoir, parce qu'elle va réfléchir à la construction de cette arche, bitume et poids. Elle va le déposer à un endroit stratégique, elle va placer sa fille en surveillance. Donc, tout ça, c'est qu'elle a une idée derrière la tête. C'est pas un geste de désespoir. Mais c'est un geste d'espoir pour sauver la vie de cet enfant. Alors, est-ce que vous voulez sauver le monde? Mesdames, voulez-vous sauver le monde? Vous voulez renverser des royaumes puissants? Eh bien, dispensez la vie autour de vous. Allaitez un bébé pour la gloire de Jésus-Christ. Enseignez un enfant dans la voie qu'il doit suivre. Faites l'école de dimanche. Témoignez contre l'avortement. Ces choses-là, c'est votre force. C'est ainsi que les royaumes sont renversés. Et c'est le comble. Pharaon, il avait surtout peur des garçons. C'est eux qui vont... Ils risquent de m'embêter. Je laisse les filles tranquilles. Eh bien, l'ironie de Dieu, c'est qu'il a été renversé par les actes de quelques femmes, quelques filles. La petite résistance, une petite résistance, mais un grand Dieu, ce qui a permis... que la grande délivrance s'opère, ce que j'aimerais parler maintenant, la grande délivrance. L'Exode, c'est ce récit d'un Dieu qui délivre, comme Vincent a dit ce matin pour introduire notre culte. On dresse le tableau dans le premier chapitre d'un pharaon très très puissant, mais Dieu va vouloir montrer dans ce livre qu'il est le tout-puissant. Il n'y a que Dieu qui est tout-puissant. Et c'est ce que Dieu va montrer. Alors Dieu va s'engager à délivrer son peuple. Et pour délivrer son peuple, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien d'abord, il va délivrer ce petit bébé, Moïse, pour le destiner à être délivreur de son peuple. Et c'est pour ça qu'on raconte tous ces détails en chapitre 2, c'est ce récit passionnant de la naissance de Moïse, avec toute cette providence de Dieu, l'arche, la petite caisse qui arrive devant la fille de Pharaon. La fille de Pharaon qui reconnaît que c'est un enfant des Hébreux, mais qui, elle aurait pu dire, bon, moi j'obéis à mon père, je le jette dans le fleuve. Mais non, elle n'obéit pas à son père, elle décide de le sauver, de le garder. Myriam, la sœur de Moïse, qui est là pour proposer la nourrice idéale. Voilà, c'est un récit de naissance merveilleux. La délivrance de Dieu à tout moment. Et on ajoute ce récit de la naissance de Moïse pour montrer à quel point ce bébé est destiné à un rôle spécial. Dieu l'a tellement délivré en tant que bébé, c'est qu'il a quelque chose pour lui plus tard pour délivrer son peuple. Et c'est ce qui va se passer. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Il va grandir. Et il va conduire son peuple hors d'Égypte. Il va conduire son peuple hors d'une mort certaine, hors de l'esclavage. Et pour ça, Dieu, pour faire l'exode de tout le peuple, d'abord Dieu, il fait une petite exode, l'exode de Moïse, l'exode du petit bébé de Moïse, et c'est ce que veut dire son nom d'ailleurs. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux, je l'ai sorti des eaux, je l'ai exodé des eaux. Moïse a été retiré des eaux du Nil, il a été retiré des eaux de la mort, il ne s'est pas noyé comme il aurait dû, comme tous les petits garçons auraient dû être noyés. Lui, il ne s'est pas noyé, il a été sorti, il a été retiré. Et quelques années plus tard, le peuple va vivre la même chose, tout le peuple va vivre la même chose. Au lieu de se noyer dans les eaux, au lieu de se noyer dans la mer Rouge, eh bien, ils vont être retirés des eaux. Grâce à la conduite de Moïse et de leur Dieu, ils vont être retirés des eaux. Donc Moïse a été retiré des eaux pour ensuite permettre à tout le peuple d'être sorti de l'esclavage, sorti de la mort, sorti des eaux. Et le comble, je trouve, c'est que Dieu, il va les délivrer, il va délivrer son peuple tout en faisant justice à tout ce qui s'est fait en Égypte. Je crois que c'est la première fois que je l'ai vraiment remarqué, bien que je connaisse l'histoire comme vous, mais qu'est-ce qu'avait fait Pharaon et tout le peuple? Ils avaient jeté les garçons mâles dans le fleuve. C'est terrible, toute une société qui jette les garçons, les bébés, dans le fleuve. Et quel va être le jugement final de Dieu sur l'Égypte? Vous connaissez les 10 plaies, quelle était la dernière des 10 plaies? Eh bien, c'était le garçon, les fils aînés, le garçon dans chaque foyer, a été mis à mort par l'ange destructeur. Et puis juste après, toute la force masculine de l'Égypte, tous les soldats, toute l'armée vont être noyés dans l'eau. Tout ce qu'avait fait Égypte envers le peuple de Dieu, ils vont le subir dans la justice de Dieu. La justice de Dieu était complète. Et c'est ça Dieu, il s'est jugé le mal et sauvé son peuple en même temps. C'est ce qu'il a fait dans la mer Rouge, il a jugé le péché des Égyptiens, tout en sauvant son peuple. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on trouve, c'est un phénomène récurrent, les récits de naissance. Les récits de naissance, souvent dans des circonstances exceptionnelles, parfois miraculeuses. Vous connaissez le récit de naissance d'Isaac, sa mère stérile toutes ces années, ou ici le récit de naissance de Moïse. Après, il y aura le récit de naissance de Samson, puis le récit de naissance de Samuel. Chaque fois, les naissances sont extraordinaires parce que Dieu a en vue une mission extraordinaire pour chacun de ses enfants. Et puis, on arrive au Nouveau Testament, les évangiles, Matthieu, Luc. Et le Nouveau Testament commence avec le récit d'une naissance. Une naissance particulière, une naissance exceptionnelle, une naissance miraculeuse. Un petit bébé va naître et il va être, on va vouloir le massacrer. Ce petit garçon mâle, on va vouloir le massacrer. Le roi puissant va vouloir le massacrer. Alors, ce petit bébé avec ses parents, ils vont devoir, par la foi, se cacher en passant par l'Égypte, d'ailleurs. Mais tout ça, ça nous rappelle, si on prend le même thème à travers la Bible, on voit que ces circonstances de protection, ces circonstances particulières de la naissance, ça nous signale qu'il y a une grande mission en vue pour le bébé qui est né et qui a été protégé. Et bien ce bébé, c'est Jésus. On a fêté sa naissance à Noël, bien sûr. Et il est venu pour être notre délivreur, notre conducteur, pour délivrer son peuple d'un maître bien plus cruel, bien plus subtil, bien plus puissant que Pharaon, notamment le péché et la mort que cela entraîne. Jésus a été aussi délivré, petit bébé. Mais quand c'était le moment pour Jésus de délivrer son peuple, grandi, puisque c'était sa destinée visiblement, quand c'était le moment pour Jésus de délivrer son peuple, là, Jésus n'avait pas d'arche pour le protéger et pour le délivrer. En fait, Jésus, il était l'arche. Et en tant qu'arche, c'est lui qui a pris. C'est lui qui a pris le déluge de la colère. Dieu le Père, il a jeté son propre fils. Il a jeté dans le fleuve de la colère et du jugement. Vous voyez qu'à la croix, c'était Jésus qui était complètement baptisé, complètement immergé dans la mort, dans l'enfer, si je puis dire. À la croix, c'était le premier né de Dieu, c'était le fils aîné de Dieu, ce garçon mâle de Dieu qui a été mis à mort. Tout ça parce qu'il prenait notre place, tout ça parce qu'il voulait nous protéger et nous délivrer. Mais ensuite, c'est ça qui est merveilleux, Dieu a ensuite, une fois que Jésus a payé pour nos péchés à la croix, une fois qu'il a été submergé par la colère de Dieu pour nous, une fois qu'il a expié tout ça, eh bien Dieu l'a délivré. Dieu l'a sorti, il l'a retiré de la mort, il l'a retiré du tombeau. Il a fait son exode lui aussi par la résurrection. C'est ça la résurrection. Vous vous souvenez de ces versets que nous avons lus ce matin, qui étaient sur le mur. Dieu étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. C'était aussi la prière de Jésus. C'est David qui avait formulé ces mots, mais c'était le fils de David, Jésus-Christ, qui a pu vraiment les prier. Oui, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux de la mort. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Vous voyez ce que Dieu a fait? Il a délivré, retiré son fils des eaux de la mort une fois qu'il a payé pour nous, pour que ensuite Jésus devienne notre délivreur, notre conducteur pour nous conduire, nous, hors de la mort, hors du péché. C'est ce qu'il a fait pour Michel. Vous l'avez vu si bien illustré par le baptême, vous l'avez entendu par son témoignage, à quel point Dieu l'a délivré du péché de la mort. Et ce qu'il veut faire pour chacun de nous, c'est ce qu'il fait. Alors mettez-vous dans l'arche. Mettez-vous dans l'arche, mettez-vous en Jésus-Christ. Et puis rejoignez la résistance. On peut être une petite bande, mais par la foi, dans notre grand délivreur, voilà, on peut renverser les royaumes. Que Dieu vous bénisse. Amen.